Et maintenant, sur les ondes de Radio Albitzes, retrouvez votre créneau conférence.
Tout de suite, sur les ondes, l'ombre de la Grande Guerre dans la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, la chapelle du souvenir, une conférence donnée par Guillaume Gras, agrégé d'histoire et rédacteur adjoint de la Revue du Tarn, organisée par l'association Albi Patrimoine et enregistrée par Radio Albitzes le lundi 14 octobre 2019, en vous souhaitant une bonne écoute.
Merci d'être venu pour cette conférence. Alors avant de donner la parole à Guillaume, je voudrais vous annoncer deux choses. La première des choses, c'est que Albi Patrimoine organise une visite de l'ancien cimetière d'Albi, vieux cimetière d'Albi, le samedi 2 novembre à 14h30. Donc le rendez-vous est en gros face à l'entrée du parking du Bondidou, de la cathédrale, puisque l'entrée du cimetière a changé. Donc normalement ça dure une heure et quart, on vous raconte l'histoire du cimetière et l'histoire aussi des familles, des principales familles qui sont enterrées. Deuxième chose, deux jours après, le 4 novembre, on aura le plaisir d'avoir une conférence de Vincent Bonnefille intitulée « Du petit Lude au bon sauveur ». Voilà. Et au mois de décembre, la date je ne me rappelle plus, mais c'est le deuxième lundi du mois de décembre, c'est Jean-Louis Biget qui nous parlera des cathares avant la croisade. Et aujourd'hui, on reçoit Guillaume Gras, que tout le monde connaît, occitaniste reconnu, rédacteur en chef adjoint de la Revue du Tarn, qui s'investit beaucoup, qui a eu le plaisir d'être reçu à l'agrégation il n'y a pas longtemps, et on est fiers pour lui, on est très content pour lui, compte tenu de tout son investissement. Et donc vous pouvez applaudir, hein. Alors aujourd'hui, parce que chaque année, ils viennent nous faire une conférence intéressante, qui est un peu une conférence inédite dans la mesure où le sujet est peu connu, il va nous parler donc de la chapelle du souvenir qu'il y a dans la cathédrale Sainte-Cécile. Donc, et je pense que là aussi, on va apprendre pas mal de choses. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Guillaume, c'est à toi.
Merci, cher Gérard, pour ces belles paroles de bienvenue. Alors avant de commencer, je voudrais quand même m'assurer que tout le monde m'entend correctement. Bon, c'est très bien, n'hésitez pas à crier au cas où le micro viendrait à connaître quelques difficultés ou si moi-même ma voix venait à être éraillée. Alors il n'est jamais très facile de venir parler devant les personnes qui composent l'Assemblée d'Albi Patrimoine, parce que c'est un public qui est distingué et qualifié en matière d'histoire. Il n'est jamais facile de venir parler à la place qu'occupera bientôt notre maître à tous, c'est Jean-Louis Biget. Et donc c'est toujours avec un peu d'appréhension qu'on vient présenter un sujet ici face à votre assemblée. Alors Gérard Alquet a eu la gentillesse de dire que j'étais un petit peu connu. Je ne sais pas si c'est exact, mais ceux qui me connaissent un petit peu savent que je m'intéresse particulièrement à l'histoire moderne. Pour les historiens, l'histoire moderne correspond à la période qui s'étire du 16e au 18e siècle. Et curieusement ce soir, je ferai une petite entorse à mes habitudes, puisque ce soir, j'ai décidé de vous parler de la chapelle du souvenir que l'on trouve dans la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. Alors pourquoi ce sujet? C'est un peu le hasard, la providence peut-être, et l'amitié de Philippe Bloquet, qui m'a donné accès à un carton d'archives qu'il a pu acheter dans quelques vides-greniers. Et ce carton d'archives était tout simplement un fonds qui concernait le chanoine Louis Biraud. Et donc il a sauvé ce carton d'archives de la destruction et il me l'a laissé pendant quelques bons mois afin que je puisse l'étudier. Lorsqu'il m'avait évoqué cette découverte incroyable, un peu comme l'orgue de la légende et qui flaire la chair humaine, j'avais compris que là, effectivement, il y avait peut-être matière à traiter un sujet intéressant. Alors, la chapelle du souvenir, j'ai pu l'évoquer très rapidement dans un ouvrage que tout le monde connaît, qui s'appelle « Albi, joyeux de Languedoc », mais les contraintes éditoriales ont été telles que j'ai eu assez peu de place pour traiter de la chapelle du souvenir, donc j'ai beaucoup de détails à énoncer, et c'est avec plaisir que je vous les présenterai ce soir. Alors, la chapelle du souvenir se situe donc dans la cathédrale Sainte-Cécile, et je vous ai signalé avec un petit carré rouge l'emplacement de la chapelle, donc dans le déambulatoire de la cathédrale. Alors c'est une chapelle qui a longtemps été dédiée à Sainte-Anne, puis aux trois rois mages, et enfin à Saint-François d'Assise jusqu'au 19e siècle. Et puis au début du 20e siècle, elle est signalée comme étant désaffectée, comme étant sans utilité, et c'est pour ça que le choix d'installer la chapelle du souvenir va se porter sur cette chapelle. Alors pourquoi la chapelle du souvenir ? Eh bien c'est un lien direct avec la Première Guerre mondiale. Nous sortons à peine de l'ère des commémorations et il était intéressant donc de parler de ce lieu de mémoire qui était donc qui est toujours d'ailleurs dans la chapelle, dans la cathédrale d'Albi. Alors cette chapelle va être aménagée au lendemain de la Première Guerre mondiale dans les années 20. Vous le savez tous, les années 20 sont marquées par le souci de se souvenir, de commémorer la Grande Guerre. Pour mémoire, je vous rappelle que dès le 11 novembre 1920, la tombe du soldat inconnu est inaugurée sous l'Arc de Triomphe et que dès 1922, une loi impose le 11 novembre comme fête nationale, ce qui n'était pas acquis d'avance, car qui dit fête nationale dit jour férié. Et dans l'après-Première Guerre mondiale, on était plus intéressé par la reconstruction du pays que par donner des jours fériés. Pour se resituer un peu dans le contexte, je vous rappelle que la Grande Guerre a été terrible pour notre pays. C'est environ 1,5 million de Français qui sont tombés, parmi les plus jeunes et les plus actifs. C'est 5,5 millions de blessés, dont près de 1,2 million de mutilés, qui rencontreront de grandes difficultés à se réinsérer dans leur vie quotidienne. Il faut aussi évoquer la place importante des veuves et des orphelins, 600 000 veuves, plus de 1 million d'orphelins qui ont perdu mari et père. Et donc pour cette génération perdue, on a commencé à lever un peu partout des monuments aux morts. Et une historienne qui a étudié avec précision ces monuments aux morts a pu parler d'un ensemble parfaitement tragique où elle voyait à la fois l'unité de temps avec le 11 novembre, l'unité d'action avec la cérémonie commémorative et l'unité de lieu avec le monument aux morts. Alors ces monuments aux morts sont édifiés un peu partout. Je vous présente juste quelques exemples albigeois. Donc le monument qui est boulevard Sibyl à Albi. Le monument aux morts que l'on trouve dans le lycée La Pérouse, pour rappeler que des élèves ou des professeurs étaient eux aussi tombés au champ d'honneur. Donc il est dressé en 1930. D'autres églises en ont, comme l'église de la Madeleine ou ici la collégiale Saint-Salvi. Et puis, bien entendu, la cathédrale Sainte-Cécile. Donc, je vous présente ici la chapelle du souvenir qui va être inaugurée dès 1925. Alors, pourquoi une chapelle du souvenir dans la cathédrale ? Qui a été le maître d'œuvre de la cathédrale ? Les plus attentifs parmi vous l'auront compris, c'est bien sûr le chanoine Louis Biraud. Donc, le chanoine Louis Biraud, dont je vous montre le portrait, est une personnalité de premier plan, à la fois au niveau religieux, au niveau politique, que ce soit au niveau local, mais même au niveau national. C'est une personnalité qui a appartenu au courant, on va dire, moderniste, qui était pour inclure l'Église catholique dans la République. Et pour lui, il était important de passer outre les divisions qui étaient nées notamment au moment de la séparation entre les églises et l'État en 1905. Donc Louis Biraud, il est la cheville ouvrière du projet et il va porter ce projet de bout en bout. Depuis la recherche de financement jusqu'au contact avec toutes les administrations compétentes pour pouvoir aménager la cathédrale de Sainte-Cécile, jusqu'au choix des thèmes qui seront arborés dans la chapelle du souvenir. Donc Louis Biraud, donc une personnalité importante qui a été vicaire général de Monseigneur Mignot, qui lui aussi a été un évêque important pour le diocèse d'Albi et qui avait un certain nombre d'idées assez progressistes en ce début de XXe siècle. Biraud était tellement progressiste qu'il ne pourra jamais devenir évêque puisque ses idées ont profondément déplu à Rome et donc il devra se contenter de rester à la fin de sa vie archiprêtre de la cathédrale. Il perdra même son vicariat général lorsque Mignot décède en 1918 et est remplacé par Monseigneur Césérac. Alors Louis Biraud souhaite, je remonte tout de même Monseigneur Mignot, Louis Biraud souhaite donc dédier une chapelle de la cathédrale aux morts de la Grande Guerre. Il est vrai que lui-même a été un ancien combattant. Malgré son âge, il a 51 ans lorsque la Grande Guerre éclate. Il a donc pu être complètement réformé, mais il ne l'a pas souhaité, puisqu'il estimait qu'il fallait montrer à tous les bouffeurs de curés que un prêtre pouvait très bien participer à la guerre comme n'importe quel autre citoyen du pays. Son âge fait qu'il va être aumônier militaire, bien entendu, mais surtout brancardier, qui était une position pas forcément très confortable dans les tranchées, puisqu'il s'agissait parfois d'aller secourir les camarades tombés au front et sous le feu de l'ennemi, qui ne prenait pas forcément soin des brancardiers du camp adverse. Louis Biraud donc, il a fait toute la Première Guerre mondiale. Il a laissé des carnets de guerre qui sont absolument passionnants, qui ont été publiés il y a à peu près une vingtaine d'années. Et dans ces carnets, il a montré toute sa sensibilité quant au fantassin qui a dû lutter courageusement durant cette Première Guerre mondiale. Les qualités de Biraud comme soldat ont été reconnues puisqu'il a été décoré à la fois de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre. Il n'hésitait pas à prendre position pour dénoncer parfois les mauvais traitements subis par les soldats et surtout le monstrueux gaspillage de vie humaine dû notamment aux carences des états-majors. Alors il y a une citation célèbre que l'on cite toujours à nos élèves de Biraud, c'est lorsqu'il évoque le fantassin, il évoque le porc fantassin sale, boueux, crotté, courbé sur son sac, abrité sous sa toile de tente, mouillé, les pieds endoloris, gelés, le fantassin qui vit dans des trous pleins d'eau, qui y mange, qui y dort, qui mène l'existence d'une bête traquée, pauvre fantassin sans ressort, sans lumière, qui bat les routes sans savoir où il va, qui se fait tuer sans savoir pourquoi. Alors excusez-moi pour cette longue citation, mais je crois que tout est dit lorsqu'il décrit la situation du fantassin pendant la Première Guerre mondiale. Et dès lors, on comprend qu'il ait souhaité dans sa cathédrale un monument qui rappellerait le souvenir de tous ses frères de combat morts au champ d'honneur. Donc si vous voulez, pour l'introduction, je voulais donc insister sur ce contexte. Donc à la fois ce contexte de l'expérience de la guerre qui a uni et a soudé dans le feu les soldats, et puis aussi la volonté de commémorer et de ne pas oublier la Grande Guerre, qui doit être la der des der, la guerre qui ne doit jamais revenir. En même temps, le chanoine Biraud est un chrétien, c'est un peu un truisme que de le dire, et donc pour lui, établir une chapelle du souvenir est naturellement un acte profondément chrétien. Il s'agit d'avoir un lieu destiné à la prière pour le soldat des morts, pour le salut des soldats morts au combat. Alors son projet débute dès le lendemain de la Première Guerre mondiale. Dès l'année 1919, il commence à essayer de trouver les moyens financiers pour établir sa chapelle du souvenir. Alors dès Noël 1919, il lance une souscription. Ça, c'est la méthode un peu habituelle et qui est encore valable aujourd'hui. Lorsqu'on a un projet à monter et à mettre en œuvre, eh bien, on essaie parfois de travailler par souscription. Ça permet déjà de voir si le projet a quelque chance d'aboutir. Dans son projet de souscription, il indique ses objectifs. Il s'agit tout d'abord d'installer un hôtel et un retable avec tabernacle. Donc hôtel, retable, tabernacle, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir célébrer des messes pour le salut des soldats donc tombés au champ d'honneur. Il souhaite également mettre deux plaques sur lesquelles seront inscrites les morts qui sont donc tombés, les morts albigeois qui sont tombés durant la Première Guerre mondiale. Et enfin, il aimerait aussi décorer cette chapelle qui, comme je vous l'ai dit en introduction, était dite désaffectée au début du XXe siècle. Et surtout pour lui, bien entendu, cette chapelle du souvenir, elle doit s'intégrer complètement dans le décor existant de la cathédrale. Il s'agit de poursuivre l'œuvre de ceux qui ont embelli la cathédrale, et donc le chanoine Biraud a envie, lui aussi, d'apporter sa pierre à l'édifice, ou sa brique à l'édifice, c'est comme chacun voudra. Donc ce chapelet du souvenir doit marquer la mémoire de la Première Guerre mondiale, elle doit être aussi un lieu de recueillement, et enfin, bien entendu, un lieu religieux. Il indique dans sa souscription que 10% des montants récoltés serviront à faire dire des messes pour le repos des soldats morts. Alors la première souscription est lancée le 25 décembre 1919, mais elle n'a pas complètement l'écho escompté, et donc le chanoine Biraud sera contraint à lancer un deuxième appel le 15 février 1920, où il va davantage insister dans ce deuxième appel sur le caractère un peu patriotique de cette souscription, histoire de relancer un peu la récolte de fonds. L'objectif est clair, et le principe, il le suivra jusqu'au bout. Il s'agit d'inscrire le nom de tous les paroissiens tombés, bien entendu, mais également de tous les albigeois qui ne seraient pas de confession catholique. La confession ici n'est pas un obstacle. Pour Biraud, la chapelle doit accueillir tous ceux, catholiques ou non, qui sont tombés au front. C'est une manière de rappeler la fraternité qui a pu unir les soldats au front. Et bien, au-delà de la mort, cette fraternité doit se retrouver même dans la chapelle du souvenir.
C'est à l'escuto de Radio Albizès.
Les souscriptions abondent après le deuxième appel. On a donc 517 souscripteurs qui vont donner plus de 23 000 francs. Et on peut s'amuser à faire des moyennes, ça fait une moyenne de 45 francs par souscripteur. La plus grosse souscription est due à un employé du Crédit Lyonnais, mais qui tait son nom, et qui va donner 2300 francs à lui tout seul. Une fois que le chanoine Biraud a récolté une partie de ses fonds, eh bien, il va pouvoir lancer plus en avant son projet et commencer donc à demander les autorisations nécessaires pour pouvoir faire aménager la chapelle dans la cathédrale. Pour cela, bien sûr, il va s'adresser au ministre des Beaux-Arts, qui est le seul à même de pouvoir lui délivrer les autorisations nécessaires. Pour être certain que son projet aboutisse, Biraud prend contact avec l'architecte en chef des monuments historiques, qui à l'époque était en charge du Tarn et du Tarn-et-Garonne. C'est un certain Louis-Jean Hulot, bon, célèbre a priori pour ses restaurations à Toulouse, notamment le Capitole ou l'église Saint-Cerné. Alors la correspondance régulière entre les deux hommes permet justement de voir un petit peu comment le projet avance peu à peu, comment il se nourrit de leurs échanges. Alors Louis Biraud donc a commencé à récolter des fonds, mais bien entendu, lorsque les premiers devis arrivent, il se rend compte qu'il lui manquera encore de l'argent. L'argent est le nerf de la guerre, mais pour pouvoir établir sa chapelle du souvenir, il a là aussi besoin de fonds. Alors il ne se décourage pas, il essaie de trouver des subventions. Il va notamment s'adresser à l'État pour obtenir des matériaux, des matières premières, pour pouvoir notamment faire sculpter le retable dans le marbre. Mais l'État lui répond qu'on n'accorde pas de blocs de marbre à titre de subvention pour un objet qui va servir à un culte religieux. Séparation des églises de l'État oblige. Louis Biraud va donc toujours compter sur une aide des particuliers pour pouvoir donc mener à bien son projet. Une fois qu'il arrive à avoir donc tous les fonds en sa possession, il va se mettre en quête des artistes. Là aussi, il va faire un certain nombre de démarchages pour trouver les meilleurs artistes qui pourront donc faire à la fois l'autel, à la fois le retable, mais également restaurer la chapelle pour pouvoir l'intégrer convenablement dans les murs existants de la cathédrale Sainte-Cécile. Alors, il va faire appel à un sculpteur célèbre qui qui a notamment sculpté des monuments aux morts dans le département, c'est Gaston Toussaint, qui a fait les monuments aux morts de Castres en particulier, mais aussi de Mazamé. Et Louis Bureau, qui a dû être sensible à son talent, va chercher à proposer donc Gaston Toussaint. Et là, que ce soit l'inspecteur des monuments historiques ou bien la commission des monuments historiques présidée par un certain monsieur Bosse-Villewald, je ne vous garantis pas la prononciation, bien, tous les deux sont un petit peu réticents au début à accepter Gaston Toussaint. Le premier, monsieur Hulot, préférerait que ce soit les artistes qui travaillent déjà pour lui, notamment au Sacré-Cœur à Montmartre, et monsieur Bosse-Villewald préférerait que ce soit son fils, qui apparemment est un artiste de talent. Donc Louis Bureau est un petit peu ennuyé, et il va tout de même réussir à imposer Gaston Toussaint, prétextant qu'après tout, puisque c'est lui qui a avancé les fonds, il est quand même normal qu'à ce niveau-là, il ait son mot à dire. Donc, Louis Bureau obtient donc l'accord de l'État pour faire aménager la chapelle. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Il a pu rassembler les fonds. Il a désormais les artistes ou les artisans nécessaires à son projet. Les choses sérieuses vont donc pouvoir commencer. Alors, je vais vous présenter maintenant un peu plus en détail donc, cette chapelle et vous proposer quelques clés de lecture pour arriver donc, à déchiffrer la chapelle qui peut parfois nous sembler même bien mystérieuse plus d'un siècle après les événements. Une des clés de lecture, c'est bien sûr l'association entre le Christ et le soldat. Dans l'esprit de Chanoine Bureau, les deux ont donné leur vie pour une cause et les deux sont donc morts pour cette cause qu'ils défendaient et qu'ils croyaient juste. Alors pour construire l'autel qui sera dans cette chapelle, Louis Bureau fait appel à l'atelier Gache, qui est un atelier toulousain, et avec qui il avait habitude de travailler pour d'autres projets dans d'autres églises. L'autel est commandé en mars 1921, et il est posé un an plus tard, en mars 1922. Donc l'autel, le voici, il a une forme de sarcophage antique, et un certain nombre de détails, que les connaisseurs reconnaissent immédiatement. Au centre, vous avez donc un chrisme. Ce chrisme avec les monogrammes en lettres grecques du Christ, pardon, et l'alpha et l'oméga qui représentent donc le début et la fin de tout dans les écrits bibliques. Au-dessus de l'autel, un tabernacle en bronze avec la croix du chapitre cathédral. Je rappelle que Louis Bureau était chanoine de l'église. Et au-dessous de la croix du chapitre cathédral, vous reconnaissez tous le motif de l'agneau. Bon, c'est l'agneau pascal, l'animal du sacrifice par excellence, un peu comme les soldats se sont sacrifiés eux aussi lors des combats de la Première Guerre mondiale. Donc je vous rappelle également que ce tabernacle est nécessaire puisque l'autel doit servir à célébrer des messes. Et l'idée dans l'esprit du chanoine Bureau, c'était que le sang du Christ qui coulera à nouveau donc au moment de la messe va sanctifier et glorifier le sang des soldats morts au combat. Au-dessus du retable, au-dessus de l'autel, pardon, c'est un retable que voici, donc qui est l'œuvre de ce fameux Gaston Toussaint, artiste tarné de Castres, et qui a donc réalisé un certain nombre de monuments morts dans le département. Alors, comme je disais précédemment, ça a été compliqué pour Bureau pour faire accepter Gaston Toussaint, notamment Hulot qui craignait que Toussaint soit un peu trop moderne. C'est un élève de Bourdel, qui lui-même est élève de Rodin. Bon, apparemment son style était dit style néo-archaïque, et donc l'inspecteur des monuments historiques Hulot craignait que ce soit un peu trop moderne pour le comparer au statut 15e siècle qu'accueille la cathédrale Sainte-Cécile. Mais au fur et à mesure de la correspondance, on se rend compte que Hulot semble un peu se dérider et que plus le temps passe, plus il semble apprécier les premières esquisses réalisées par Gaston Toussaint. À la fin, ce qui est assez surprenant d'ailleurs lorsqu'on lit la correspondance, c'est que Hulot se déclare tout à fait satisfait finalement du travail de Toussaint. A priori, Toussaint a réussi à convaincre Hulot que sa méthode et sa technique correspondraient particulièrement bien à la cathédrale Sainte-Cécile. Et je vous présenterai tout à l'heure quelques détails qui ont pu peut-être intéresser Hulot. Le seul problème dont se plaint toujours Hulot à la fin de sa correspondance avec Biraud, c'est qu'il a de plus en plus de mal à communiquer avec Toussaint, qui était de plus en plus atteint de surdité et qui donc le rendait la conversation de plus en plus difficile. Alors, Toussaint, bien entendu, savait, était au courant des réticences de Hulot, et dans la correspondance que Toussaint adressait à Biraud, bien il craignait que Hulot n'arrive à convaincre Biraud que finalement il fallait se passer de lui, de son talent, et chercher un autre artiste. Et alors Toussaint lui aussi essayait de convaincre Biraud qu'il faisait le bon choix en le choisissant lui et en le soutenant contre Hulot. Et je vous montrerai un des détails tout à l'heure qui a pu donc faire pencher la balance en sa faveur. Alors le bas-relief arrive à Albi en mai 1923. C'est une pièce qui pèse et qui a causé beaucoup de soucis au moment de l'installation. Alors, Biraud a laissé, bien sûr, le talent de l'artiste s'exprimer, mais c'est Biraud qui a choisi les personnages qui devaient figurer sur ce retable. Alors, au centre du retable, on découvre une croix avec un petit tertre, donc sous la croix, qui marque l'emplacement d'une tombe de soldats de la Première Guerre mondiale. On reconnaît au premier plan le casque du soldat. Si vous êtes bien attentif et si c'est bien visible à l'écran, on reconnaît également la baïonnette qui est fichée dans le sol. Et sur cette tombe de soldat, toute simple, les palmes du martyr qui sont déposées par une sainte que je vous présenterai tout à l'heure. Donc l'hommage, c'est bien sûr pour le soldat de France, pour le soldat d'Albi qui est tombé pendant la Première Guerre mondiale. Et pour Biraud, il faut que tous les saints de France viennent présenter leurs hommages aux soldats français qui est donc tombé pour défendre le pays. Et Biraud va choisir un certain nombre de saints traditionnels protecteurs de la France. Alors, de part et d'autre, on trouve donc cinq personnages. À droite de la tombe, agenouillé, qui est en train de poser donc la palme du martyr, c'est bien sûr la grande sainte albigeoise, même si elle n'est pas née à Albi et qu'elle n'est jamais venue, mais comme dit Biraud, depuis le temps qu'elle veille sur la ville, elle mérite bien d'être naturalisée albigeoise. Donc c'est bien entendu Sainte-Cécile. Derrière elle, vous reconnaissez tous Saint-Rémy, donc le bras levé et bénissant. Saint-Rémy, c'est lui qui baptisa Clovis, sans doute vers la fin du 5e siècle, et qui a donc contribué à faire de la France une terre chrétienne. À côté, c'est Sainte Geneviève, donc les mains croisées, en train de prier. Sainte Geneviève, c'est la protectrice de Paris, Paris qui avait dû supporter quelques bombardements allemands pendant la Première Guerre mondiale. Juste derrière, debout, c'est Sainte Odile, Odile, patronne de l'Alsace, l'Alsace libérée du joug allemand en 1918, et qui apporte la couronne de laurier que vous pouvez apercevoir donc au-dessus de la tête de Sainte Geneviève. Et puis, toute menue, au premier plan, c'est la petite bergère, protectrice de la paysannerie, qui a versé un lourd tribut à la Première Guerre mondiale. C'est la sainte locale, c'est Sainte Germaine de Pibrac, donc l'humble bergère du Languedoc. Une marque donc pour ces fantassins issus des campagnes et qui ont payé le plus lourd tribut à la Première Guerre mondiale. De l'autre côté, d'autres personnages. Au premier plan, c'est le roi, le seul roi saint dans les dynasties françaises, donc c'est Saint Louis, donc reconnaissable avec la fleur de lys sur le bouclier et la couronne. Alors ce personnage-là qui a donné beaucoup de travail à Hulot, à Gaston Toussaint, pardon, et Gaston Toussaint qui s'est inspiré d'un célèbre chevalier que l'on trouve sur un des portails de la cathédrale de Chartres, et Toussaint a beaucoup insisté sur ses sources d'influence et qui l'ont permis à reconstituer donc le costume du roi Saint-Louis. On reconnaît un petit peu la posture, le drapé du vêtement et la présence du bouclier en bas à gauche par rapport au personnage. Donc Saint-Louis qui est suivi par Jeanne d'Arc. Donc Jeanne d'Arc qui représente bien sûr l'esprit national de défense face à l'étranger. Donc c'est elle qui apparaît aussi comme la protectrice du territoire. Et derrière Jeanne d'Arc, c'est un archange, c'est Saint-Michel, qui semble remettre qui remet son épée dans le fourreau d'un geste un peu lent, un peu fatigué, qui montre aussi que la guerre a été terrible pour l'ensemble des soldats. On se rappelle qu'au moment de l'armistice, lorsque le clairon retentit dans les tranchées, les soldats sont heureux, mais surtout ils sont très fatigués. On a plusieurs témoignages concordants à ce niveau, très fatigués à la fin de cette guerre, et il est assez facile de comprendre aujourd'hui. Au second plan, enfin, c'est l'évêque Saint-Martin, dont c'est un évêque qui était très populaire jusqu'à la Première Guerre mondiale, puisque sa fête était célébrée le 11 novembre, et vous savez tous que cette fête va être éclipsée par la fête en l'honneur de la fin des combats de la Première Guerre mondiale. Voilà donc pour les personnages représentés sur ce retable. Au centre de ce retable apparaît un personnage, on pourrait presque personnifier un monument, mais un monument qui pourrait personnifier, c'est vrai, la France, c'est la cathédrale Notre-Dame de Reims. Notre-Dame de Reims, c'est bien sûr l'église qui voyait le sacre des rois de France. Donc c'est un monument qui était symbole de l'histoire de France, de la profondeur de l'histoire de France. Et cette église avait été gravement mutilée par les premiers assauts allemands dès l'automne 1914. Et la propagande s'était bien sûr emparée de ces images catastrophiques de la cathédrale de Reims, donc prise par les flammes, bombardées, les voûtes écroulées, et qui avait servi donc la propagande pour présenter l'Allemand comme un barbare. Donc ici c'est l'empereur Guillaume II représenté comme empereur des Vandales. Les Vandales, ce peuple germanique, l'idée était simple, l'Allemand était le barbare de toutes les époques et de tous les temps, barbare au 5e siècle, il est toujours au début du 20e siècle. C'est un peu l'image qu'on a cherché à véhiculer. Les Français combattaient pour la civilisation et le droit, les Allemands, eux, n'étaient que des barbares.
Toujours branché sur les ondes de Radio Albigès dans le Tarn, sur la bande FM 95.4 et 104.2, vous écoutez l'émission Conférence avec aujourd'hui l'ombre de la Grande Guerre dans la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, la chapelle du souvenir. Une conférence donnée par Guillaume Gras, agrégé d'histoire et rédacteur adjoint de la Revue du Tarn. Une conférence organisée par l'association Albi Patrimoine et enregistrée par Radio Albigès le lundi 14 octobre 2019 aux archives départementales du Tarn.
Sur les bas-côtés donc de la chapelle, donc vous avez au fond l'autel, le tabernacle et le retable. Et puis sur les bas-côtés, un certain nombre d'inscriptions en l'honneur donc, de tous les soldats albigeois tombés au cours de la Première Guerre mondiale. Alors, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que la plaque donc, reprend tous les noms des albigeois tombés, mais sans distinction des grades. C'est-à-dire qu'on suit l'ordre alphabétique, quelle que soit la confession, quels que soient les grades, donc pêle-mêle, on va lier ensemble tous les soldats sans faire attention à qui est capitaine, qui est sergent, qui est général. L'ensemble des albigeois vont pouvoir être inscrits les uns à la suite des autres dans un souci donc d'égalité ou de fraternité. Alors, je parlais de général, c'est bien sûr le général civil qui figurera sur cette plaque. Alors, il n'était pas tout à fait albigeois de naissance, puisque le général civil était un Lorrain, mais il a commandé la place d'Albi, Et dès le début de la guerre, il est donc envoyé sur le front et il mourra au cours d'une charge héroïque dès septembre 1914 de mémoire. Alors, ces plaques donc, sont livrées dès 1922 et il y a une qui est intéressante, c'est parce qu'à la fin, regardez, je vous ai fait un petit agrandissement. Donc, à la suite de la liste alphabétique des noms, tous autres que Dieu connaît, puisque la Première Guerre mondiale a eu ceci de dramatique, c'est que ça a été aussi une mort anonyme. C'est que certains soldats ne sont jamais revenus vivants, bien entendu, mais parfois certains corps n'ont jamais été retrouvés et de nombreuses familles n'ont eu aucune tombe sur laquelle se recueillir, d'où notamment la tombe de soldats inconnus sous l'Arc de Triomphe, qui devait permettre à chaque famille d'avoir un endroit pour pouvoir se recueillir. Alors, par rapport aux inscriptions, c'est Biro lui-même qui a choisi le format et la taille des lettres. Donc, dans le fonds documentaire qui m'avait été confié, on a pu retrouver un certain nombre d'essais. Donc, on imagine le chanoine du Biro, le soir, à sa table de travail, en train de s'amuser, si l'on peut dire, à tenter différents types de lettres, à les mesurer de façon à pouvoir voir lesquelles se lui sembleraient les plus adéquates pour ensuite les faire graver. Les devis sont assez éloquents, c'était 90 francs pour 100 lettres gravées et il y avait 1467 lettres à graver. Je ne vous ai pas fait le calcul, vous le ferez à date reposée. Alors, l'autel, le retable, le tabernacle, les deux dalles avec les inscriptions des soldats tombés au champ d'honneur. Mais rappelez-vous, Biro, vous souhaitez aussi restaurer les peintures de la chapelle. Donc dès mars 1923, il obtient à ce niveau l'accord du ministère pour pouvoir aider au financement de la restauration de la chapelle. Donc comme l'église appartient à l'État, comme la cathédrale appartient à l'État, lorsqu'il s'agit de faire restaurer les peintures, l'État doit bien entendu mettre la main à la poche. Là, Biro a fait jouer ses relations, puisqu'il a de très bonnes relations avec Madame Waldeck-Rousseau, dont la femme de Pierre Waldeck-Rousseau, qui fut président du conseil au tournant du XXe siècle. Alors voici aujourd'hui dans quel état se trouve donc la voûte et le haut des murs de la chapelle du souvenir. Tout au sommet de la voûte, donc bien entendu, on retrouve encore une fois l'agneau, donc symbole du sacrifice du Christ pour l'humanité. Et je vous le rappelle, à l'image donc des poilus qui se sacrifient pour la patrie. Mais les murs vont être complètement refaits. Alors j'ai un petit problème technique. Ah mais je suis très déçu, j'avais des photos. Des photos qui figuraient dans le fond bureau et qui montraient l'état avant restauration et l'état après. Bon, je tenterai de vous le montrer à la fin de la conférence. Et donc Biro va faire restaurer les peintures. Et l'intérêt, c'est que justement, on a des photographies de l'état de la chapelle juste avant la restauration. Bon, je vous montrerai tout à l'heure. Alors, sur ces murs, il va vouloir faire apparaître un certain nombre de lieux, de sites, qui parfois nous semblent bien étranges aujourd'hui. Mais je vous rappelle dans les années 1920, tous les lieux qui sont indiqués sur la chapelle ne sont absolument pas inconnus pour les contemporains, puisque cela fait partie entièrement de leur actualité. Un siècle plus tard, il est parfois utile d'expliquer, mais au moment donné, dès les années 1920, c'est parfaitement clair pour tout le monde. Alors, sur la partie donc sur votre gauche, il y a un certain nombre de lieux. Donc, c'est par exemple Bisping, donc un village lorrain où sont déroulés les premiers combats de la guerre entre Allemands et Français. Au-dessous, c'est Roselieur. C'est la première victoire française sur le front de Lorraine. Une victoire symbolique, puisque un des objectifs des Français était tout de même de reprendre l'Alsace et la partie de la Lorraine que nous avaient pris les Allemands en 1870. Seicheprey, c'est une ville des Flandres. Les Flandres dessous, ce sont donc une région de dur combat où va tomber justement le général Sibille. Puis la Champagne, là sont de grands combats d'usure, notamment autour de Massige ou de Beauséjour. Bref, des lieux qui parlaient aux Français des années 1920, parce que c'est là où s'étaient déroulés des combats importants de la Première Guerre mondiale. Sur le mur de droite, hein, alors c'est encore des noms sur le mur de droite qui résonnent peut-être davantage aujourd'hui, un siècle plus tard. C'est d'abord l'Argonne, c'est la côte 304 au nord-est de Verdun, la fameuse côte 304 qui, après les terribles combats de Verdun au cours de l'année 1916, ne mesurait plus 304 mètres, mais mesurait 297 mètres. Ce qui montre à quel point les combats avaient pu bouleverser complètement le paysage et le terrain, et avaient et montre aussi la puissance de feu qui se déroulait pendant cette première guerre mondiale. Voilà, donc quantité d'autres lieux que je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais qui rappellent les grands moments de cette première guerre mondiale. Alors, au souvenir de toutes ces batailles, Louis Biraud a voulu également rajouter les armoiries, les blasons des grandes villes qui ont été soit protégées, soit sauvées ou reconquises par les armées françaises. Donc vous avez par exemple la ville de Laon, la ville de Strasbourg, mais ce sont aussi le nom de tous les grands fleuves ou des vallées où ont pu avoir lieu donc, des combats de la Première Guerre mondiale. Donc vous avez par exemple l'Isère, vous avez la Somme, avec les grandes batailles de 1915. Bon, il y a aussi la Marne, mais que je vous présente pas ce soir. Mais toutes les grandes batailles apparaissent également sur les murs. Quel était l'objectif du Chanoine-Louis Biraud ? C'est que finalement, dans cette chapelle, tous ces soldats qui apparaissent comme des héros de la Première Guerre mondiale sont au milieu de ce qu'ils ont vu. Ils sont au milieu de ce qu'ils ont fait, les combats, et au milieu de ce qu'ils ont souffert. Et quelque part, il recrée un peu un paysage imaginaire de ce qu'ont pu vivre donc, ces soldats de la Première Guerre mondiale. Alors, c'est un miracle. Donc, je retrouve les photographies que je voulais vous montrer. Donc, en noir et blanc, la chapelle avant restauration, où apparaît donc une niche. Et après restauration, lorsqu'on a posé donc, cette plaque avec les inscriptions. Voilà, aujourd'hui dans la chapelle figurent aussi les blasons des archevêques Mignot et Césarac, et donc qui permettent de dater une partie de la chapelle, puisqu'ils ont été enterrés à proximité. Alors, dans la chapelle, il fallait également faire entrer la lumière, dont les travaux vont permettre d'enlever ce qui obstruait une ancienne fenêtre et d'y installer un vitrail. Alors, pour ce vitrail, l'inspecteur Buss Villewald revient à la charge et cherche à imposer à nouveau son fils. Mais ce coup-ci, c'est un artiste présenté par Hulot qui va être choisi par Biraud. Et le motif est assez simple. C'est une ascension, d'accord ? Une ascension d'un Christ en pleine gloire et qui cherche donc à montrer un peu que comme le Christ a connu la gloire, les soldats également ont connu leur main de gloire en versant leur sang pour la patrie. Au bas, en bleu, c'est donc la Vierge Marie, qui est bien sûr triste de perdre son fils, mais également ravie, parce qu'elle sait que c'est le message biblique qui se réalise, et que c'est une chose à laquelle elle ne pouvait pas se dérober.
Vous êtes bien sur Radio Albigès, la radio vous proposant une programmation stimulant la curiosité, la réflexion, le plaisir et la découverte.
Les travaux sont pratiquement terminés. Biraud aurait espéré ajouter encore quelques éléments de décoration, notamment une table de communion. La table de communion, c'est une barrière qui sépare la chapelle du reste de l'édifice. Et également deux torchères, mais les coûts ont dépassé tout l'argent disponible, et donc il faudra attendre d'autres dons pour pouvoir réaliser ces deux torchères et la table de communication. Alors l'inauguration aura lieu en grande pompe le 26 mai 1925. La cérémonie est bien sûr présidée par le supérieur du chanoine Biraud, c'est Monseigneur Césarac. Alors, Monseigneur Césarac et Louis Biraud ne devaient pas être en excellent terme, puisque Césarac avait enlevé son vicariat général à Biraud. Il n'avait pas pu lui enlever son archiprêtré à la cathédrale, puisque ça c'était une fonction que vous occupiez jusqu'à ce que les forces vous lâchent. Donc on ne sait pas dans quelles conditions s'est déroulée vraiment à la mise en place de l'inauguration, mais Biro n'a pas eu d'autre choix que de s'incliner, puisque l'Arche d'Albi et bien entendu son supérieur. Alors la cérémonie est bien sûr très classique, très religieuse. Après les vêpres et le salut au très saint sacrement, il y a un grand discours prononcé par le chanoine Ardan, qui est lui aussi qui est vicaire général, mais à Limoges, qui a été chevalier de la Légion d'honneur et croix de guerre, suite à sa participation à la Première Guerre mondiale. Puis c'est le chanoine Biro qui prend la parole. Après, donc, certains chants comme le Dies Irae ont fait une quête au profit de la chapelle. Et puis enfin, la chapelle est bénite et tous les participants à la cérémonie peuvent enfin défiler devant la chapelle, déposer des fleurs. Et bien entendu, les premiers intéressés sont toutes les familles albigeoises qui ont été endeuillées par la Première Guerre mondiale. Alors, il faut imaginer une cérémonie somptueuse où tous les albigeois sont présents et Mgr Césérac lui-même, bien sûr, tout son chapitre, les élèves du Grand Séminaire. Plus de 700 places ont été réservées aux familles. La nef est entièrement pleine, les tribunes sont pleines, puisque c'était une époque où on pouvait accéder extrêmement facilement aux tribunes. Donc il y a foule ce jour-là dans la cathédrale Sainte-Cécile. Bien entendu, toutes les autorités sont en place, que ce soit les autorités préfectorales, municipales, les officiers du 15e régiment d'infanterie. Bref, tout le monde est présent pour participer à l'inauguration et à la bénédiction de la chapelle du souvenir. Alors, avant la cérémonie, on a essayé toujours dans l'espoir de récolter quelques fonds. On a vendu donc des bouquets de fleurs aux couleurs nationales, des bleuets, des marguerites et des œillets rouges. Le cœur de la cathédrale est entièrement décoré de drapeaux et illuminé de flammes tricolores. Donc c'est peut-être une cérémonie religieuse, mais c'est aussi une grande scène patriotique et qui rappelle les efforts faits durant la Première Guerre mondiale. Alors, lors du discours du chanoine Ardan, le vicaire général de Limoges, il ne manque pas d'évoquer donc les douleurs des familles liées à la perte d'un des leurs. Il évoque les regrets pour tant de vies fauchées, tant de jeunesse, tant de talents, de bravoure anéantie, tant de souffrances physiques et morales endurées. Et il a un espoir, ce chanoine Ardan, c'est l'espoir que tout ce sang versé cimentera à jamais l'union de tous les Français. L'union sacrée, nécessaire, et qui évitera non seulement de replonger dans la guerre, mais c'est une union sacrée que l'on évoque à nouveau dans les années 1920. Il faut la recontextualiser. Dans les années 20, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en faveur de la paix entre pays européens. On a parfois tendance à l'oublier parce qu'on pense souvent qu'aux années 30 et à la marche à la guerre, comme si la Seconde Guerre mondiale était forcément devait arriver automatiquement. Mais dans les années 20, on a de grands personnages comme Aristide Briand, pas Aristide Briand, c'est quelqu'un d'autre, mais là Aristide Briand, et c'est l'esprit de Locarno, comme on disait à cette époque, et des personnalités de premier plan qui œuvrent pour réconcilier les peuples et pour que la Der des Der soit vraiment la Der des Der et que ce soit vraiment plus jamais ça. Et donc pour quelqu'un comme le chanoine Ardan, lorsqu'il évoque donc la nécessité de l'union sacrée, la nécessité aussi d'éviter de nouvelles guerres, il évoque aussi que l'union doit faire oublier tout ce qui a pu diviser les Français avant la Première Guerre mondiale, de ce qu'on appelait la Belle Époque, mais qui a été la Belle Époque pour certains, mais pas pour tout le monde, et une Belle Époque a été marquée par la séparation, par la querelle des inventaires, et puis aussi par la montée de plus en plus importante de ce qu'on, appelait la lutte des classes. Alors, la cérémonie est terminée, le chanoine Biro doit être satisfait du travail accompli, à la fois pour tous les soldats donc, tombés au champ d'honneur. Il doit être également satisfait du résultat de la quête, hein, puisque ce jour-là, il sait qu'il va pouvoir acheter enfin la table de communion et les torchères qu'il espérait tant pour pouvoir terminer sa chapelle du souvenir. Bon, je vous passe les détails entre recettes et dépenses. Je pense que le bilan comptable ne va pas nous intéresser ce soir. Voilà, bon, c'était le document qui annonçait la chapelle du souvenir, avec donc Mgr Césérac. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en début de conférence, je vous ai présenté Mgr Mignot, qui a participé là, du mouvement moderniste. Mgr Césérac, c'est un petit peu tout le contraire. Lui, dans le mouvement plutôt traditionnaliste, d'où le fait qu'il ait écarté Loubiro. Et je pense que les portraits sont assez éloquents. D'accord, les photographies sont parfois parlantes, même si on ne peut pas, bien sûr, faire le portrait psychologique d'une personne à partir de sa seule photographie. Voilà, alors voici le projet de Biro pour sa table de communion. C'est lui-même qui a dessiné le projet. Vous le remarquez, il y a bien sûr la croix de guerre qui figure en bonne place. Et si on compare le projet avec la réalisation, eh bien on remarque que ce que voulait Biro a été fait. C'est vraiment lui, le maître d'œuvre. C'est lui qui a vraiment été la personne qui a indiqué ce qu'il fallait faire et comment il le fallait. Ce qui montre également les qualités de Louis Biro en tant qu'ordonnateur, en tant que personne capable de prendre des décisions et surtout en qualité de personne cultivée et lettrée, comme tout bon ecclésiastique peut de son temps, et capable donc de faire des choix, même dans le domaine artistique. Alors, quand l'historien se penche sur ce type de problématique, donc il raconte, c'est ce qu'il doit savoir faire un récit, essayer de raconter, mais il faut aussi toujours essayer de replacer un événement dans son contexte. Et c'est là où faire œuvre d'historien devient un petit peu plus compliqué. Donc de manière tout à fait mesurée, je poserai une question, à savoir finalement cette chapelle du souvenir, peut-elle être envisagée comme une réponse de l'Église catholique au monument aux morts laïques de la République? Je vous rappelle, nous sommes donc au début du XXe siècle, qui a été marqué par les séparations des Églises et de l'État, la querelle des inventaires, et donc finalement, ce chapelet du souvenir, est-ce un peu la réponse du berger à la bergère de la part de l'Église catholique? Alors, quand on étudie un peu la personnalité du chanoine Biro, je pense qu'on pourrait répondre par la négative. Parce que Biro ne considérait pas qu'il fallait opposer les catholiques à la République. Pour lui, les catholiques ne doivent pas être en dehors de la République, et à tel point qu'il ne souhaite pas, par exemple, de parti politique catholique. Pour lui, les catholiques doivent participer aux différents... Les catholiques doivent participer aux différents partis politiques qui existent et ne pas chercher à créer leur propre parti catholique. Il n'était pas du tout en faveur, par exemple, de l'Action catholique qui lui rendait bien. Biro a par ailleurs participé à la construction du monument aux morts boulevard civil. Il en était aussi une des chevilles ouvrières. Et enfin, surtout, Biro était un catholique, incroyable. Et surtout, Biro, il est donc dans son rôle en édifiant cette chapelle du souvenir, qui pour lui a un double objectif. Il s'agit, vous l'avez compris, de commémorer tout d'abord, de se souvenir, mais surtout de permettre à tous ceux qui le souhaitent de venir se recueillir et prier pour le salut des âmes des soldats. Et finalement, face à la mort, face à l'angoisse qui est liée à cette mort, eh bien l'Église ici est peut-être dans son rôle traditionnel, celui de rassurer, de consoler, et de proposer l'espérance. On ne pouvait pas en attendre moins de Biro. Alors proposer l'espérance, proposer l'espoir, c'était peut-être le message final de Biro. Pour ma part, j'espère moi que je ne vous aurai pas trop accablé avec ce petit exposé, et je vous remercie pour votre attention. Vous avez été parfait. C'est très bien. Merci à vous.
Vous êtes bien sur Radio Albigès 95.4 et 104.2 dans le Tarn et partout ailleurs sur internet radioalbigès.com. Vous écoutez l'émission Conférence avec aujourd'hui l'ombre de la Grande Guerre dans la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, la chapelle du souvenir. Une conférence donnée par Guillaume Gras, agrégé d'histoire et rédacteur adjoint de la Revue du Tarn, organisée par l'association Albi Patrimoine et enregistrée par Radio Albigès le lundi 14 octobre 2019 aux archives départementales du Tarn.
Gérard Alquier craignait que le micro ne fonctionne pas. J'ai l'impression qu'il a tenu jusqu'au bout.
Tu as fait vite. Hein. Alors, Guillaume, merci beaucoup pour cet exposé qui était excessivement clair et très intéressant, très bien documenté. Je dirais donc que c'était passionnant. La conclusion aussi, je pense que tu l'as dite, mais on ne le doit qu'à un seul homme, bien entendu. C'est lui qui s'est battu pour l'avoir, compte tenu qu'après, forcément, son évêque, en l'ayant destitué de sa fonction, mais il a continué dans son projet. Bon, j'ai une seule question, après on demandera. Est-ce que c'est pas une chapelle où on a la marque de Donnella ?
De qui ?
Du peintre italien Donnella. Non ?
Alors, ça, il faut demander à.
Non, mais dans l'arrondi, là, au niveau du vitrail. Tu sais pas, tu
as besoin.
D'accord. Bon, à creuser.
À creuser.
C'est bien parce qu'on va toujours un peu plus loin. Est-ce que vous avez des questions à poser ?
Justement, au sujet du vitrail, Emmanuel, son nom m'échappe.
Kidari.
J'ai rencontré dans une randonnée des gens qui avaient, dont la famille avait participé à ce vitrail. Et il est rentré en contact avec la famille donc, qui avait participé à ce vitrail. Vous lui demanderez.
Alors, le spécialiste donc, des peintures de maintenant ou des vitraux, c'est vrai que c'est Emmanuel Kidari qui s'en occupe. Il faut dire qu'il est à pied d'œuvre tous les jours. Il a la chance de pouvoir observer la cathédrale. On en parlait tout à l'heure avec M. Alquier. La difficulté à Albi, c'est que la ville est tellement riche que dès qu'on rentre dans un lieu à Albi, forcément, on découvre toujours quelque chose. Et donc, alors c'est à la fois intéressant et à la fois dramatique parce qu'on apprend tout le temps et on sait qu'on n'arrivera jamais au bout de rien. Alors, madame, votre intervention est très intéressante parce que j'ai pas eu le temps de tout développer. J'avais dit en début de conférence, je développerai plus que dans le maigre article que j'ai fait dans le bouquin sur la cathédrale. Mais effectivement, ce sont une famille de donateurs donc, qui a donné l'argent pour pouvoir réaliser le vitrail. Et c'est même leur portrait au couple hein, qui figure dans le vitrail. Mais par modestie, ils n'ont pas souhaité que leur nom apparaisse sur le vitrail. Alors ça se faisait de manière assez classique hein, dans les églises, quand les gens versaient leur obole pour payer la réalisation d'un vitrail, soit mettaient leur nom, dont de la famille Untel, soit parfois ils préféraient rester anonymes. Et alors parfois en reconnaissance, on mettait leur visage sur le vitrail. Bon, c'est une manière aussi d'inciter d'autres personnes à faire des dons. Bon, vanitas, vanitatis, vous savez bien, mais les gens sont toujours sensibles aux honneurs. Ainsi va la nature humaine.
Est-ce que tu connais d'autres églises dans le Tarn où il y a ce genre de monument, à l'intérieur dans une chapelle ? Non.
Alors, même des chapelles du souvenir, dans le cas de la cathédrale d'Albi, il existe dans d'autres monuments, il existe des cathédrales du souvenir, qu'est-ce que je raconte ? C'est la fin de la journée, je vais me reprendre. Il existe dans d'autres cathédrales des chapelles du souvenir, et alors je n'ai pas visité toutes les cathédrales de France, et j'ai jamais eu l'occasion, dans les cathédrales que j'ai visitées, de voir des chapelles du souvenir pour me rendre compte si à l'intérieur il y a des monuments vraiment dédiés. Parce que la chapelle du souvenir, c'est pas forcément le souvenir lié à la Première Guerre mondiale. Le souvenir, vous connaissez tous certainement le souvenir français, qui aujourd'hui donc est chargé de commémorer tous ces événements. Mais le souvenir français, par exemple, apparaît au lendemain de la guerre de 1870. Et la grande différence entre les monuments aux morts de la guerre de 1870 et les monuments aux morts de 1914-1918, c'est qu'en 1870, ce sont souvent des monuments voulus par des particuliers. Et alors que les monuments aux morts de 1914-1918, c'est plutôt voulu par l'État ou par les communes. Bon, vous imaginez pourquoi. La Grande Guerre, nous l'avons gagnée. 1870, nous avons perdu. Malgré le colonel Tessier, nous avons perdu.
Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ?
Oui. Juste un élément. L'église de Cazoul, qui est donc du côté de Pamplonne, oui. Le vitrail est juste à la porte d'entrée.
C'est vrai. Et puis il y a aussi une église à Gaillac, je crois que c'est Saint-Michel de Gaillac, qui a aussi des vitraux où il y a dessus des pollux qui sont représentés dans l'église Saint-Michel de Gaillac. Voyez, en parlant, il y a des souvenirs qui reviennent justement en discutant.
La question, c'est le monument du souvenir de la paroisse Saint-Cécile, d'Albi tout entier ou du diocèse ?
C'est pour la paroisse d'Albi.
Mais c'est la paroisse
Sainte-Cécile.
C'est Sainte-Cécile d'Albi.
Toutes les morts de Saint-Salvi ou du Bout-du-Port.
Et non, mais alors, et pour Biro, c'est tous les soldats albigeois qui doivent figurer sur les inscriptions que je vous ai montrées. Donc c'est pas propre à la paroisse. En fait, il faut que ça dépasse ce cadre pour Biro. Ça va au-delà.
Et c'est
pas diocésain pour autant. C'est juste pour la ville d'Albi. Alors, ce qui pourrait surprendre, c'est que la cathédrale, c'est l'église mère du diocèse. Hein, mais comme Biro n'avait pas charge paroissiale, il avait été juste archiprêtre de la cathédrale. Forcément, il s'est servi aussi de ce qu'il pouvait faire, puisque, je vous le rappelle, il n'était quand même pas en forcément très bon terme avec son supérieur, donc Monseigneur Césarac. Donc, il a agi comme il a pu. Et puis surtout, je pense que Biro, qui était... Alors, moi, c'est un homme que j'estime, parce que lorsqu'on lit ses écrits, lorsqu'on voit les idées qu'il a pu présenter au début du XXe siècle, c'est quelqu'un qui avait quand même une hauteur d'esprit. Et donc, je pense que c'est quelqu'un qui avait souffert avec les soldats pendant la Première Guerre mondiale. Et il a voulu aussi le rendre hommage, mais à sa manière, en tant qu'homme d'église. Parce qu'il ne dissociait pas, évidemment, les deux. Et puis, l'église Sainte-Cécile, la cathédrale Sainte-Cécile, c'était aussi son église. Lorsqu'il fêtera son jubilé, il l'intitulera « À l'ombre de Sainte-Cécile ». Donc, ces 50 ans passés à l'ombre de Sainte-Cécile, pour lui, c'est vraiment son église. Une église qui était très, très importante pour lui. Biro, c'est un albigeois parce qu'il est né à Albi, même s'il a fait ses études au petit séminaire à Castres. Puisqu'il a suivi son père qui suite à une mutation en tant que fonctionnaire, était parti travailler à Castres. Mais c'est un albigeois.
Dans la plupart des monuments aux morts de 14-18, on a rajouté des plaques après pour les morts de 39-45. Est-ce que c'est le cas? Je ne crois pas.
C'est pas le cas. Je pense que alors, la guerre de 39-45, c'est, vous savez, c'est la guerre de 40, hein. D'accord, quand on parle avec les gens qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, ils vous disent jamais, les gens qui ont vécu cette période, ils vous disent jamais la guerre de 39-45, ils vous disent toujours la guerre de 40. Et même si la vie a été compliquée et difficile, ça n'a peut-être pas eu le même impact que la Grande Guerre qui a touché beaucoup plus de familles. Enfin, quelle famille n'a pas été endeuillée pendant la Première Guerre mondiale, alors que l'impact de la Seconde Guerre mondiale, sans vouloir bien sûr comparer les deux, mais n'a peut-être pas été aussi important que la Première. Tout se discute.
Et les Albigeois reconnaissants ont donné son nom à une rue. C'est le prolongement de la rue des Prêtres.
Oui, mais...
rue de Chalandier.
C'est ça.
Et je pense qu'il devait habiter là aussi.
Oui, puisque c'est là, bien sûr.
Est-ce que vous avez d'autres questions?
Je voulais savoir où est-ce que vous avez trouvé les photos de... Est-ce qu'on peut se les procurer, ces photos?
Alors, les photos, elles sont entre les mains privées de cette personne dont je parlais au tout début. Donc, je suis en train de le travailler au corps pour qu'il fasse don de ces documents. Parce que, vous savez bien, les gens sont passionnés, mais parfois les descendants le sont moins. Et d'ailleurs, on l'évoquait tout à l'heure avec M. Alquet, c'est que parfois, il y a certaines personnes pour qui le patrimoine n'est pas du tout intéressant. Les vieux papiers, ce ne sont que des vieux papiers. Et donc, je le travaille au corps pour qu'il fasse don de ses archives aux archives départementales. Je pense que M. Le Potier a encore quelques places sur ses étagères. Ou... Bon, on fera pas de... Pas de... Oui, il faut pas que les services d'archives se disputent. Hein. Mais l'essentiel serait que ces archives soient sauvées. Voilà. Alors, l'essentiel serait aussi qu'un jour, quelqu'un nous fasse un beau travail sur le chanoine Biro. Là, récemment, il y a une thèse qui a été faite sur Monseigneur Mignot et qui a été publiée aux éditions du CERF. Et c'est vrai que c'est dommage, on n'a pas de travaux très très récents sur Louis Biro. Donc, avis aux amateurs. On lance des bouteilles d'eau à la mer. Mais il y a beaucoup à faire. Hein. Et je pense qu'il mériterait... parce que je crois que le dernier biographe, c'est Louis de Lacgé, qui était aussi un ecclésiastique important dans l'historiographie albigeoise. Hein. Mais ça date de plus d'un demi-siècle. Hein. Et vous le savez, à chaque période, les historiens portent toujours un regard différent sur le passé. Et donc, c'est toujours intéressant de remettre l'ouvrage sur le travail, de reprendre les sources, de reposer les questions sur les sources. Et c'est un travail sans fin. Ce qui est désespérant pour les historiens parce que le livre définitif n'existe pas. Et donc ça, il faut accepter qu'il y a toujours des pages à réécrire en fonction du regard que l'on porte sur le passé.
Alors on vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous. Merci de vous avoir invité.
Thank you.
toujours à l'écoute de Radio Albigès sur la bande FM 95.4 104.2 et partout ailleurs sur internet www.radioalbigès.com. Vous venez d'écouter l'émission Conférence avec aujourd'hui l'ombre de la Grande Guerre dans la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, la chapelle du souvenir. Une conférence donnée par Guillaume Gras, agrégé d'histoire et rédacteur adjoint de la Revue du Tarn. Une conférence organisée par l'association Albi Patrimoine et enregistrée par Radio Albigès le lundi 14 octobre 2019 dans l'auditorium des archives départementales du Tarn. N'hésitez pas, vous pourrez retrouver cette émission bientôt en podcast en passant par notre site internet. En vous souhaitant une belle écoute de la suite de notre programmation. Alcop Québec, brevet monde.